9h07 sur France Inter. Florence Paracolos récupère ses affaires dans le studio. À demain et bienvenue si vous nous rejoignez. Sinon, vous restez avec nous, prendre un café. La grande matinale, le magazine, c'est parti pour une heure de culture et de société. Charline Vanhoenacker a invité Frédéric Fromet et sa guitare pour revenir en chanson sur la manifestation de l'extrême droite ce samedi à Lyon. À 9h50 toute cette semaine, Daphné Burki nous propose une sélection de pépites reçues dans Nouvelle Tête ce matin. Mélissa Polony, nouvelle pensionnaire de la Comédie Française. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. À moins de 3 semaines du premier tour des municipales, faut-il maîtriser TikTok pour remporter l'écharpe tricolore? Après la victoire spectaculaire de Zoran Mamdani à la mairie de New York, sa stratégie sur les réseaux sociaux inspire, parfois jusqu'au calque. Les candidats freins, est-il devenu plus important que le terrain? Nous en discuterons tout à l'heure. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter, la grande matinale, Mathilde Serrel.
On l'a connu sarcastique avec le Jamel Comedy Club et les sketchs sur Canal+. Les années 2000 découvrent ce type de maison Alfort, à la voix un peu rentrée, qui pratique un cynisme aussi hilarant que décontracté. Les années 2010 valident ces deux futurs comédies cultes, Casse Départ et Le Crocodile du Botswanga, avec l'ami Fabrice Eboué. Et après avoir fait rire la France endeuillée par les attentats de 2015, dans son second one-man show, c'est comme si les années 2020 avaient ouvert une boîte où l'attendaient des réserves inexploitées de son talent. Réaliser un vrai polar au Cameroun, pays du père et des ancêtres, incarner la douceur et les fêlures d'un aide-soignant dans l'excellente série Empathie de Florence Lompré, donner sa voix à un bonimenteur affectueux dans un long métrage d'animation sur les enfants soldats, sans oublier d'écrire un film de flic totalement années 80. Alors comment s'est-il redécouvert Thomas Njijol et notre grand portrait numéro 94. Oh. Thomas Njijol, bonjour.
Bonjour Mathilde.
La première fois que vous avez vu un clip du rappeur Snoop Dogg à la télé, vous vous êtes dit que tout était possible. Ouais. C'est vrai cette légende?
Un petit peu, parce qu'il a un physique qui me rappelle un peu le mien. Et c'est vrai que voir ce mec en plein milieu de son quartier envahir le monde entier en fait, à travers ce morceau, bah, ça donne confiance, c'est une sorte de modèle qui donne de l'espoir. Ouais.
Alors vous aviez confiance, vous avez cru que tout était possible, et ce possible pour vous c'était comédien.
Ouais.
Et alors là en revanche ça a été moins bien reçu. Quand vous en avez parlé, on vous a demandé si vous préfériez pas faire la manche directement.
Oh, ça n'a pas été jusque là, mais c'est vrai que bah, d'un point de vue culturel, d'un point de vue d'éducation, c'est pas la chose qu'on raconte comme ça à ses parents, quoi. Surtout à une figure comme mon père, donc c'était un peu délicat avant de lui montrer qu'il y avait une issue dans cette matière-là.
Ouais. Vous n'avez pas PowerPoint à l'époque, mais vous avez dû présenter quand même un plan de carrière.
Un petit peu. Non, mais c'est vrai en plus. Bah, en fait, c'est surtout que ça m'a motivé à aborder tout ça de façon ultra professionnelle. C'est-à-dire que j'y allais pas pour l'amusement ou pour la légèreté et fuir un peu mes études. Non, j'y allais et il y avait quelque chose de carré dans ma tête.
Est-ce que vous avez une petite pensée pour votre grand-mère ce matin qui vous a dit « Vas-y, fais ce que tu as à faire, ton père, je m'en occupe
» J'ai presque envie de dire ce matin et quasiment tout le temps parce que ma dernière fille a le nom de ma grand-mère, donc forcément, elle est toujours avec nous.
Vous êtes à l'affiche d'Allah n'est pas obligé, film d'animation qui sort la semaine prochaine, adapté du roman de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma et qui avait reçu le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens entre autres en 2000. C'est l'histoire de Biriama, un jeune garçon guinéen qui se retrouve enrôlé comme enfant soldat dans les guerres civiles du Libéria et de la Sierra Leone. On est à la fin des années 90. Lui aussi, sa grand-mère avait de grands espoirs pour lui lorsqu'elle le confie à Yacouba, marabout autoproclamé le plus grand d'Afrique, à Fabien. Fabulateur charmeur, larron vénal que vous incarnez. Le réalisateur Zaven Nejjar dit que vous lui avez donné beaucoup de pistes pour ce personnage. Qu'est-ce qui résonnait en vous chez ce Yacouba ?
Oh bah, en fait, il est ambigu, donc il est un peu... On ne sait pas s'il est vraiment gentil ou il travaille pour sa poire. Et j'aime bien, en fait, toujours ce petit côté ou pas trop manichéen, quoi, quand on ne sait pas trop sur quel pied jongler. C'est un peu ce qu'on m'a dit toute ma vie, de toute façon. Dès que je disais quelque chose de sérieux, on me disait « tu rigoles ». Et quand je... quand j'étais pas sérieux, enfin, quand j'étais justement sérieux ou pas, enfin, il y a toujours du lard ou du cochon, c'est l'expression qui résume un peu ma vie, quoi.
D'accord. Ouais, ouais. Il y a toujours du lard ou du cochon, ce sera sur votre pierre tombale.
Bah... ouais, pourquoi pas. À la fin, en toute fin, vraiment, pas en haut. Ouais.
D'accord. Ouais. Alors, c'est un film d'animation, il faut le dire, qui est extrêmement lumineux, ouais. Extrêmement tendre, malgré l'horreur. On est plongé dans les mécaniques de la guerre civile et les trajectoires brisées des enfants soldats. Ils sont encore 300 000 ouais. Aujourd'hui dans le monde, selon l'UNICEF. Qu'est-ce qui vous a amené à porter aussi ces sujets, Thomas Gijol?
Bah, écoute, c'est simplement le fait de pouvoir jongler. En fait, c'est le plaisir de ce métier, c'est de jongler. Moi, de faire que des projets de ce genre-là, bah, ça serait un peu anxiogène pour moi. Et de l'autre côté, voilà, de passer d'empathie à ce genre de sujet, bah, je trouve que c'est aussi utile dans le sens où voilà, j'ai cette chance de pouvoir faire du divertissement, de la scène et tout. Et je trouve que de temps en temps, bah, c'est bien à travers notre art de faire humblement passer des messages ou des informations.
On écoute la voix du petit Biryama.
D'abord, je m'appelle Biraima, j'ai 12 ans. J'ai peur de rien du tout. Je suis insolent comme la barbe d'un bouc et parle comme un vrai salopard. Moi, je suis un enfant des rues. J'allais plus à l'école parce qu'on disait qu'elle ne valait pas le pain d'une vieille grand-mère. Je suis qu'un gamin et normalement un gamin poli, ça écoute. Le blabla, c'est pour les vieux. Je vais pas m'excuser de vous parler comme ça parce que je suis maudit. Maintenant que je me suis présenté, je veux vraiment, vraiment vous raconter ma vie de merde de maudit. Écrivez tout et tout sur ma fucking life.
Thomas Gijol, comment vous l'avez ressenti, vous, cette langue d'Amadou Kourouma qui a écrit donc Allah n'est pas obligé en 2000 ?
Bah, elle est brutalement vraie. Elle est ancrée dans quelque chose de puissant, parce que c'est effectivement, ça part quand même d'un constat assez alarmant, ces guerres dont on n'entend pas souvent parler d'ailleurs chez nous, c'est là qu'on voit qu'on est quand même très préservé de plein de choses, et en même temps, voilà, à travers la narration du petit Biraima, justement, c'est... Il y a un côté beau et en même temps, c'est dramatique. Parce que là, on a souri, mais il raconte un truc complètement fou.
Et on est sous les balles et, ouais. on a un gamin d'à peine 10 ans qui doit se défendre avec une kalachnikov, ouais. et en tuer aussi.
Exactement.
Sur son passage, Biraima, il cherche les mots justes dans le dictionnaire, ouais. Pour trouver sa vérité, pour raconter sa fucking life dans un tout autre contexte. Quand vous vous êtes mis à écrire votre premier spectacle,
ouais.
Vers quoi vous êtes tourné pour trouver les mots justes? C'était quoi vos rêves?
Bah, mes rêves, moi je faisais du théâtre et de l'impro à l'époque, enfin assez classique, et je m'ennuyais en fait, surtout au théâtre, de raconter des histoires qui ne me touchaient pas, qui ne connectaient pas à ma vie, qui ne connectaient pas à mon envie de à mon entourage social et compagnie. Donc du coup...
Il vous faisait marrer d'ailleurs, les mecs qui récitaient les grands textes.
Ouais, je me sentais surtout seul, donc à un moment donné j'ai choisi d'observer, de prendre la hauteur sur tout ce qui m'entourait, et je trouvais que bah qu'il y avait quelque chose de drôle. C'est là où j'ai commencé à rire un peu de mes douleurs, d'ailleurs, au final. Ouais.
Vous vouliez être instituteur au départ, c'était le
c'est
plan.
Ça. Je faisais des études pour être instit. Je travaillais, j'étais éducateur dans une école, et j'allais être instit parce que j'adorais ça et parce que les enfants m'ont aussi beaucoup donné. Je sais pas, j'avais une impression de rendre quelque chose avec ce métier.
Qu'est-ce qui dévie alors la trajectoire à ce moment-là?
C'est le timing, c'est que je me suis fait vraiment, comme je vous le disais avant, j'avais un truc très pro dans ma tête, je me suis dit, écoute, au pire des cas, ça marche pas, tu peux être encore instit, t'as l'âge, t'as l'énergie pour te, on va dire, réorienter, mais dans 10 ans, genre t'arrêtes tout ça pour être comédien, ça marchera pas ou t'auras pas l'énergie. Donc je faisais les deux en parallèle, et jusqu'à mes premiers pas sur Canal+, j'étais encore... entre les deux, et puis quand ça a commencé à payer, bah, j'ai arrêté.
Alors vous dites que votre père, quand vous lui avez annoncé, vous aviez déjà un frère qui faisait du rap, vous êtes descendu en dessous encore.
Ouais, j'étais en dessous le frère rappeur.
Ouais.
Voilà, parce que moi,
pour lui, c'était le déclassement absolu.
Bah ouais. J'ai un frère qui est maître de conférence, donc moi, j'étais pas loin derrière lui à un moment. Et puis à un moment, puis les années allaient, et puis je dégradais. Et puis voilà, là j'étais dans le caniveau à ce moment-là, quand je lui annonçais ça.
Alors vous êtes le quatrième garçon de la fratrie, le premier à naître en France.
Ouais.
Après que vos parents aient quitté le Cameroun à la fin des années 70, vous y êtes beaucoup allé pendant les vacances scolaires grâce à votre père qui travaille pour Cameroun Airlines.
Ouais.
Et pour la première fois, vous y avez tourné un film, mm-hmm. Indomptable, qui a été sélectionné à la dernière quinzaine des cinéastes, pour lequel vous venez de recevoir le prix Claude Chabrol.
Ouais.
Pas mal quand même, c'est un polar. Vous campez vous-même un flic autoritaire qui tente de faire régner l'ordre dans sa famille et dans la ville,
ouais.
après le meurtre d'un officier de police. Mm-hmm. On est très loin des comédies et des one-man shows,
ouais.
qui vous ont fait connaître. Et pourtant, vous ne pouviez pas faire autrement que de faire ce film, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Pourquoi ?
C'est parce que dans la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui ne se choisissent pas. Mais c'était, pour moi, c'était viscéral de faire ce film à ce moment-là. Après mon spectacle, mon dernier spectacle, parce que je...
NG Jol 2
Non, le dernier,
non,
L'œil du tigre. L'œil du tigre, et j'étais... Non, je sais pas, j'avais brisé un plafond, je sais pas, dans les émotions avec mes enfants, et j'avais envie de continuer d'être dans la transmission, de raconter des choses qui étaient en moi, enfin de les sortir surtout. Et à un moment donné, c'était écrit, je sais pas, j'ai refusé.
Ça vous a rattrapé ?
Ouais, ça m'a rattrapé, j'ai refusé quelques comédies, j'avais pas d'intérêt à en faire, je m'en foutais, j'avais envie d'être... Enfin, la chance qu'on a dans ce métier, la chance qu'en tout cas, que moi je m'autorise à avoir dans ce métier, c'est d'avoir le choix de choisir. Et donc là, c'était comme ça, c'était pas autre chose.
On parlait du père, vous avez puisé dans votre ressenti avec votre père.
Ouais.
Il s'est reconnu, et il a reconnu aussi la ville de Yaoundé.
Ouais.
Ça a été un soulagement pour vous.
Ouais, au-delà de mon père, de toute la communauté, et même du Cameroun, parce qu'aller tourner un film là-bas, moi je suis né à Paris dans le 12e, aller là-bas, c'est pas non plus comme si je rentrais à la maison. Je suis plus français que camerounais au final, de par mon vécu. Mais c'est vrai que d'aller là-bas... de voir, parce qu'on a fait deux projections à Yaoundé,
ouais.
voilà, et d'être adoubé par la population, c'était magnifique, c'est un aboutissement dans ma vie incroyable.
Et le regard du père qui vous dit c'est bien ?
Ouais.
Ça fait quoi ?
Ça fait du bien, même à mon âge, même s'il est grand-père, même si, voilà, il y a toujours des... On reste toujours l'enfant de ses parents au final, donc quand ton père t'es fier de toi, t'es toujours très fier.
Vous avez dormi chez Yannick Noah pendant le tournage.
Ouais, enfin, ça fait bizarre, mec, j'avais pas de lit.
Il n'y avait pas beaucoup de budget. Bon, bah,
non, non, mais
du coup, c'était Airbnb.
J'étais dans son village. Son village, c'est une sorte de village-hôtel. C'était trop bien. C'est trop bien et c'est trop occupé de nous, de l'équipe. Le staff était. Et puis, ça m'a permis d'être vraiment en immersion, quoi. Parce que c'est même pas comme si c'était un hôtel, c'est une sorte de village. Ça nous faisait vivre localement, ça nous faisait... Dans les difficultés, dans les galères, tout était mélangé. Encore une fois, je le salue parce que vraiment, son aide a été...
Vous lui mettez plusieurs étoiles, c'est bon.
Ah bah oui. Enfin, j'ai jamais rien compris à ce système-là parce que je n'utilise pas ça, mais je lui mets plein d'étoiles, ouais.
Mon père et mon grand-père ont connu le maquis, l'âge de votre personnage, au début du film, donc dans Indomptable. Il y a une terrible guerre d'indépendance au Cameroun à la fin des années 50 qui est quasi absente des manuels scolaires.
Ouais.
C'est cette violence engloutie qui a continué à marquer la société camerounaise. Mais est-ce que c'est une histoire que on vous transmettait ?
Bien sûr, mais on ne me la transmettait pas sans les mots. Il n'y avait pas de mots, en fait. C'est juste qu'on ne comprenait pas pourquoi nos parents étaient comme ça, pourquoi il y avait une espèce de tension et voire de paranoïa, parce que justement, eux ont grandi dans ça, quoi. Ils ont grandi dans une espèce de peur, dans une espèce de danger, et voilà. Et c'est vrai que comme ce n'est pas reconnu, et mon père m'a avoué il n'y a pas longtemps qu'il ne voulait pas nous en parler, en fait, pour nous donner de l'espoir.
pour pas que vous partiez
endeuillé
ou aigri ou noir.
Exactement, parce qu'on évolue en France et qu'à un moment donné, comme la France avait une implication dans tout ça, et de pas qu'on soit aigri, pas qu'on soit revanchard ou quoi que ce soit, donc je trouvais ça plutôt noble de sa part, en fait.
Parce que ça les avait un peu attaqués, vous les appelez la ligue des pères tendus, les papas du quartier à Maison-Alfort.
Il y en a beaucoup, parce que voilà, moi j'ai plein d'amis, frères d'origine arabe, algérienne et tout, qui ont des rapports similaires avec leurs parents que moi. Donc non, on est plein comme ça.
À vos débuts, après vous êtes lancé dans l'écriture, vous avez fait des scènes ouvertes, vous avez assumé donc votre histoire et vous avez rencontré Fabrice Eboué,
ouais.
puis intégré le Jamel Comedy Club. On l'écoute, Fabrice Eboué.
Mon père, c'était important de l'incarner, mais c'est vrai que c'est un hasard s'il y a plus mon père et pas ma mère. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une inflation des comiques. Avoir un sujet original dans un spectacle, c'est une tannée, tout simplement. Tout est traité quasiment. Donc je me suis toujours dit que la meilleure façon, et la façon d'être le plus original possible en tout cas, c'est de parler de soi, parce que ça, on nous l'enlève pas.
Attention, il y a une inflation des comiques.
Inflation, je le reconnais bien là, dans
vous
ce
avez...
terme-là.
Mais ouais, vous avez eu le sentiment, avec Fabrice Eboué, d'avoir mis le pied dans la porte avec cette mise en récit de soi et toute cette génération du Jamel Comedy Club.
Ouais.
En ouvrant du coup le passage
c'est
aux
sûr,
autres moments.
C'est sûr. On a été des tirailleurs, vu qu'on est un peu dans ce lexique-là. Ouais, on était un peu en front. Et puis c'est vrai que Fabrice, comme moi et d'autres, hein, il y en a plein d'autres, on est, avant même le Comedy Club, on a beaucoup galéré à Paris. On faisait plein de scènes ouvertes, et Fabrice même avant moi, on faisait énormément de scènes, ça n'existait pas les comédie clubs, tout ça. Donc effectivement, on a un peu démocratisé ce genre-là auprès d'une certaine population en tout cas. Et donc ça fait que ouais, aujourd'hui, on est assez fiers parce qu'on atteint tous des âges où on peut commencer légèrement à regarder derrière.
Alors justement, vous regardez bien derrière.
Ouais.
Police Flash 80. Allez, on se met même aussi dans une petite ambiance 80 dans le studio.
Allez.
On y va.
Ah oui.
C'est quoi ça, Thomas Jujol ?
C'est Axel F. C'est la bande originale du Flic de Beverly Hills.
Et bien sûr.
Ouais, avec Eddie Murphy.
Et on se régalera également avec les Démons de minuit dans Police Flash 80.
Entre autres
avec donc François Damiens, Audrey Lamy, Xavier Lacaille. Vous avez coécrit cette comédie avec Julia Calegari. C'est entre Nicky Larson, Scooby-Doo et les experts à Miami. Nostalgie années 80.
Ouais.
Yvan Castendush, qui est incarné par François Damiens. C'est un flic vieille école, fan d'andouillette et de Michel Sardou, confronté à une nouvelle génération aux méthodes scientifiques différentes. Vous dites, regardez un peu en arrière, je crois que ce qui vous plaisait dans cette nostalgie, c'est ce moment où tout le monde vivait aussi ensemble.
C'est ça, il y avait un côté un peu village dans les quartiers, en tout cas dans le mien, Maison Alfort, c'est vrai que les années 80, alors peut-être que je l'associe beaucoup à la jeunesse, mais il y avait quelque chose d'assez solidaire, d'assez pisse en fait, assez fraternel, et j'aimais bien en fait, j'avais envie de rendre hommage un peu à cette époque de façon comique, pas premier degré, mais quelque chose un peu de l'ordre de la comédie.
Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Comment ça s'est fissuré ce mélange, en tout cas comment elle a cessé de prendre plus ou moins cette sauce? Est-ce que c'est aussi les bulles des réseaux? Est-ce que c'est parce que c'est super de se plonger dans un film totalement analogique enfin?
Ouais, non mais je pense que c'est la politique du pays qui n'a pas été au niveau dans certains endroits. Donc forcément, ça crée encore plus de frustration, ça crée plus de souffrance et du coup plus de violence. Donc j'ai pas tous les mots là, mais c'est un mélange de plein de choses. Et effectivement, les réseaux, la multiplication des médias. Parce que justement, j'étais très étonné la dernière fois, je regardais le 20h d'une chaîne et je me suis dit, tiens, en vrai, à l'époque, au 20h, ils mettaient des sujets. Et aujourd'hui, il y a plein de faits divers.
Ah, attention, c'est Léa Salamé qui nous écoute, elle va peut-être voir son sommaire de ce
écoute,
soir.
Peut-être, mais en tout cas, je me disais qu'il y a une multitude de faits divers où je dis, mais dans l'absolu, je m'en branle en fait de ce que je viens de voir. Il n'y a pas de sujet en fait. Les sujets, en fait, quand j'étais petit, je voyais des sujets qui avaient du poids. Et là, à chaque fois, je vois plein de faits divers où je me dis, non, le 20h, c'est plus tant le 20h comme mon père le regardait, quoi.
Et est-ce qu'on ne s'informe pas aussi tellement autrement maintenant qu'évidemment, se reconnecter à Police Flash 80, c'est vivre à un monde où on avait des refs en commun,
c'est ça
qu'on voit dans votre film.
Exactement.
Je voudrais qu'on parle absolument de ce personnage de Mortimer, qui est extraordinaire dans la série Empathie de Florence Lompré, série québécoise. Vous avez débarqué là-dedans, d'ailleurs, c'était comment, avec vous de saute, ça va de bien?
Non. C'est pas encore maîtrisé.
C'est pas bien.
Non, c'est pas bien.
Ne pas faire l'accent quand on ne vient pas de l'endroit.
C'est mieux.
Une règle assez stable.
C'est mieux. Là, tu vas pas te faire taper sur les doigts, ils sont trop longs.
Mais c'était comment de débarquer là-dedans, Thomas Jujol, surtout pour ce personnage, en effet, qui est dans l'empathie, qui est tout plein de fêlures, qui est un personnage très doux et brisé en même temps. Vous n'avez peut-être pas incarné avant.
C'était génial dans le sens où, écoute, moi, je l'ai fait après le tournage d'Indomptable, cette série. J'ai beaucoup donné dans Indomptable et je me suis dit, là, je suis un peu confort dans le sens où, d'une, je suis loin, je ne suis pas dans mes marques, une fois de plus, je suis dans un pays étranger. J'ai juste un rôle, je dois incarner au mieux tout un tas de choses et il y a tout le côté émotionnel. Je me suis dit, vu que j'étais loin, je n'étais pas regardé, personne ne me connaît vraiment, j'ai tout lâché et c'était ultra plaisant.
Et est-ce que vous diriez aujourd'hui, Thomas Njijol, à 9h26 sur France Inter, que c'en est fini du cynisme pour vous ?
Ça fait longtemps que le cynisme, j'ai un petit souci avec ça, parce que ça cache des... C'est vraiment une armure au sentiment et ça me gonfle un peu. Il sera toujours un peu là, mais j'aime pas trop ça, en fait. J'aime pas trop ça parce que ça nous prive de moments simples de vie émotionnelle et j'aime pas tellement le cynisme. C'est un peu lâche, en fait. Tous les mecs qui sont un peu, ou mecs ou meufs d'ailleurs, cachés derrière le cynisme, sont un peu lâches des émotions.
Merci. Thomas Njijol. Alan n'est pas obligé, le 4 mars en salle de Zaven Nejjar, Police Flash 80 de Jean-Baptiste Sorel avec entre autres François Damien, Sandrine Lamy et Xavier Lacaille. Ça sortira 2 semaines ensuite.
Le
18 mars. Ouais. Et puis tout de suite, ça va vous faire plaisir. C'est d'une petite ambiance années 80 qu'on vous a préparé. C'est Prince qui prend le relais.
Magnifique.
Avec son béret framboise.
Ouais, béret, je sais plus quoi.
Voilà, Raspberry Beret.
Exactement.
Après un voyage en 1985 avec Prince, retour en 2026 dans le magazine de la Grande Matinale. Et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, chez Charline Vallonecker, bonjour.
Bonjour la France Inter. Vous avez vu, ça y est, en France, maintenant, les manifs de fachos, c'est autorisé. Et on va fêter ça en chanson avec Frédéric Fromet.
Ah oui, le Fromet du lundi, ça on l'avait encore jamais fait. Et puis on réécoute la comédienne et nouvelle pensionnaire de la Comédie Française, Mélissa Polony. Ce sera au micro de Daphné Burki. Il est 9h30 sur France Inter, le débat du jour. À moins de 3 semaines du premier tour des municipales, débat ce matin sur le rôle des réseaux sociaux, mais aussi des nouveaux outils d'intelligence artificielle dans cette campagne. Dans les grandes comme les petites villes, on voit des candidats s'adresser aux électeurs via des capsules vidéo, au saut du lit ou en faisant la tournée des éboueurs, façon Rachida Dati. Sur TikTok, Instagram, Twitter, c'est la foire au contenu incarné et de proximité. Certains ont même recours à l'intelligence artificielle pour construire leur visuel et proposition de campagne, ces stratégies numériques passionnantes à décrypter. Est-ce qu'elles sont vraiment les clés de la prochaine élection ? Des élections municipales qui ne donnent-elles pas justement la prime à l'ancrage local et donc la prime au réel et à la rencontre directe avec les électeurs ?
Hola Nueva York ! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. A la comunidad latina, gracias. Espero recibir su apoyo.
comme Zoran Mamdani qui a mouillé la chemise et dans toutes les langues, ici en espagnol et avec du Bad Bunny, pour l'emporter à la mairie de New York. Les candidats doivent-ils maîtriser les réseaux pour remporter l'écharpe tricolore? On en débat avec Raphaël Grabli, grand reporter spécialiste des sujets numériques sur BFM TV. Bonjour.
Bonjour.
Et Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, responsable des questions démocratiques et institutionnelles. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, je commence avec vous, Raphaël Grabli. On va poser tout de suite cette campagne comme étant une charnière. En tout cas, est-ce qu'on peut acter que pour la première fois, dans les petites comme les grandes villes, les réseaux sont ultra présents, qu'on est sur une bascule? On n'a jamais autant numérisé, on va dire, une campagne des municipales.
Oui, je pense que c'est assez juste de dire ça, effectivement. Pour la première fois, ce qui est important, effectivement, c'est la phrase « dans les petites et les grandes villes ». En 2020, déjà, les élections municipales, c'est tous les 6 ans. À l'échelle du numérique, c'est quand même des siècles. Il y a énormément d'évolutions en 6 ans. Il y a 6 ans, on commençait à peine à entendre parler de TikTok. Donc, dans les grandes villes, ça s'est déjà joué sur les réseaux sociaux. Par contre, dans les plus petites villes, ça, c'est peut-être un petit peu nouveau. Quand je dis petites villes, on parle de villes de 500 ou de 1000 habitants. Donc, dans les toutes petites villes, parce que la nouveauté, c'est vrai, c'est que les réseaux sociaux ne s'opposent pas forcément à la communication locale. Ça n'est pas parce qu'on est sur un réseau social que c'est forcément une très grande ville, une communication nationale. Aujourd'hui, vous avez les maires ou les candidats qui sont formés à utiliser certains réseaux sociaux. Alors, faut connaître les usages, faut être bien formé, faut avoir les bonnes équipes, un budget, et faut savoir...
Il faut pas raconter n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe quel réseau.
Exactement. Il faut pas avoir la tentation du « mon neveu à 20 ans, il s'est publié sur Instagram, je vais lui demander un coup de main ». Non, en fait, c'est extrêmement structuré, c'est de la communication politique, et chaque réseau social est utilisé très différemment. On va peut-être en reparler par la suite, mais il y a des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus locaux, et il y a des réseaux sociaux qui ont une portée très différente.
Blanche Léridon, justement, ces municipales, étonnamment, ne jouent pas l'ancrage local, pourtant c'est l'association qu'on fait instinctivement entre municipales et le terrain local. On a le sentiment que si ça vit sur les réseaux, on oublie les stratégies de base, les tractages dans les marchés, le porte-à-porte, le débat télévisée, ou c'est les deux?
Alors moi, je voudrais nuancer cette idée de bascule et de part prépondérante des réseaux sociaux dans cette campagne. Je pense que là, on est victime à la fois d'une distorsion et d'un prisme très parisiano-centré. On va effectivement s'attarder sur des campagnes extrêmement visuelles qui vont investir ces canaux-là, comme celle de Sarah Knafo ou de Rachida Dati. Mais si vous regardez partout ailleurs, y compris d'ailleurs dans des grandes villes, j'ai fait l'exercice ce week-end, comme Lyon ou Marseille, vous n'avez aucune corrélation directe entre nombre de followers et intention de vote dans les sondages. Je prendrai 2 exemples tout bêtes. Si vous regardez Jean-Michel Aulas à Lyon, dont on sait à quel point il est bien placé aujourd'hui dans les sondages à un peu plus de 40%, il a une existence sur les réseaux sociaux qui est quand même à minima. Alors, il reposte beaucoup, mais il ne fait pas preuve. On peut difficilement le taxer d'être le nouveau Mamdani lyonnais. Autre exemple à Marseille, quand vous comparez les audiences d'un Delogu, le candidat de la France Insoumise, et d'un Franck Alizio sur le RN, je crois qu'on est de l'ordre de 1 à 40 en termes de nombre de followers à l'avantage du candidat insoumis. Et on sait que dans les sondages, c'est Alizio qui l'emporte avec un nombre de followers extraordinairement réduit. Je crois qu'il a 11 000 followers sur Instagram. On est donc là...
Qui gagne les réseaux ne gagne pas les intentions de vote.
Il y a ça. Et puis aussi, moi, il y a un facteur qui est très important, c'est le facteur générationnel. Qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Ce sont en grande partie les jeunes. Je crois que, notamment sur TikTok, vous avez une immense majorité des utilisateurs de TikTok. Je crois que c'est 72% qui ont moins de 24 ans, donc une grande partie aussi, qui n'est pas majeure et qui donc ne vote pas. Or, aujourd'hui, il y avait une enquête très intéressante de Destin Commun qui estimait les taux de participation à l'élection municipale. Vous n'aviez que 34% des 18-24 ans qui étaient sûrs d'aller voter. Au contraire, vous aviez 88% des plus de 75 ans qui avaient l'assurance d'aller voter. Or, on sait pertinemment que ce ne sont pas les plus de 75 ans qui sont sur TikTok, et encore moins qui seraient susceptibles d'être biaisés par ce qu'ils pourraient voir sur leur réseau social pour aller voter. Donc je crois, bien sûr, ça va compter, ça fera partie des outils, mais il ne faut surtout pas en surestimer la portée.
Mais Raphaël Grabli, vous avez l'air d'opiner du chef, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer dans quelqu'un qui serait totalement absent, même si c'est pour ramasser un petit millier de followers.
Non, je suis d'accord qu'il n'y a pas une corrélation, et voire une causalité, entre être populaire sur les réseaux sociaux et faire forcément des bons scores. Après, c'est très difficile d'étudier ces chiffres. On voit quand même que quand il y a des coups d'éclat sur les réseaux sociaux, ça peut être utile. Et après, effectivement, et c'est vraiment la précaution que je prenais au tout début, attention à ne pas penser seulement à TikTok, par exemple. Oui, il y a la politique TikTok qui se fait plutôt au niveau national. C'est sûr que si vous avez un candidat dans une ville de 1000 habitants...
C'est Facebook qui compte aujourd'hui
exactement,
massivement.
Exactement, mais voir WhatsApp, en fait. Quand on parle de réseau social, on parle de quoi ? On parle de Facebook. Vous avez aussi aujourd'hui des tas de maires de candidats dans des toutes petites villes qui ont des groupes Facebook qui comptent 300-400 personnes, mais 300-400 personnes sur une ville de 2000 habitants, c'est énorme. Et donc, vous pouvez faire de la communication là-dessus. Et là, en fait, vous avez un ancrage local et numérique. Et puis après, vous avez par exemple LinkedIn. LinkedIn aussi, il faut y penser quand on parle aux entreprises locales, ça c'est important. Et puis après, il faut prendre en compte le côté, j'ai envie de dire, positif, et puis le côté négatif, parce qu'il y a aussi le pouvoir de nuisance des réseaux sociaux qui, lui, est extrêmement important.
Alors par exemple, vous voulez dire dans un échec de communication qui pourrait coûter quelques voix.
Alors, il y a de ça, mais il y a aussi...
S'y aventurer et mal s'y débrouiller,
alors, il y a mal s'y débrouiller, c'est vrai, mais je parle même de publications, de rumeurs, de fausses informations, de vidéos volées. Ça, c'est des pratiques qui n'existent pas sans les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui dans des grandes villes certains candidats qui ont publié des vidéos volées pour tenter de déstabiliser. Vous avez même une candidate, je crois qu'on on va peut-être pas citer les noms, mais qui a publié une fausse photo générée par IA et sans penser que la ville serait plus sale. Ouais. Donc ça a des répercussions. C'est difficilement quantifiable, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur ces répercussions.
Blanche Léridon, s'il y a bascule, c'est avec ces menaces ou vous n'êtes pas du tout d'accord ?
Si. Précisément, je pense que l'entrée de l'intelligence artificielle dans cette campagne est peut-être pour moi quelque chose de plus structurant que le rôle des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit très justement, on peut aller via de la vidéo générée par IA déstabiliser son adversaire en le mettant effectivement, il y a eu un certain nombre de cas déjà répertoriés avec des images d'ailleurs souvent très dégradantes pour venir délégitimer l'adversaire politique. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le programme municipal qui va être généré par intelligence artificielle, ce qui peut là poser de graves problèmes démocratiques. Mais aussi, moi je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez une espèce de surenchère aux grands projets urbanistiques qui, par la simplicité de la génération d'une vidéo, semble si simple. Regardez comme elle serait belle, la place de la République avec toutes ses fontaines et tous ses arbres ou ses nouveaux quais de Seine. Et c'est vrai que
il y a une inflation du mensonge.
Derrière, on sait que c'est quand même énormément de coûts, que c'est des travaux, que c'est long. Et donc, cette espèce de facilité, à mon avis, biaise un petit peu la perception que peuvent avoir les campagnes. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, l'intelligence artificielle opère un tournant peut-être plus intéressant et peut-être plus dangereux que les seuls réseaux sociaux.
Raphaël Grabli, ce qui est intéressant aussi, qu'il faut noter, c'est que grâce à l'utilisation quand même de ces réseaux pour faire campagne, on s'affranchit du temps de parole. Puisqu'on est directement son propre média.
Ça, c'est pour moi le point le plus
important. C'est aussi un point de bascule, ça.
Oui, alors, pour le coup, qui n'est pas propre au municipal, mais on est aussi, d'un point de vue numérique, dans une forme de répétition générale par rapport à l'élection présidentielle de 2027. Pardon. Effectivement, il y a des règles de temps de parole sur les télévisions, les radios, mais ces règles sur les réseaux sociaux sont totalement inopérantes. Elles sont totalement obsolètes. Aujourd'hui, comment est-ce que vous savez que dans une ville, un candidat, une candidate a mobilisé tel temps de parole, c'est impossible à quantifier et encore moins évidemment à rééquilibrer parce qu'aujourd'hui un algorithme diffuse un contenu à X milliers de personnes sur X, sur TikTok, c'est totalement... En fait, on est totalement aveugle sur les temps de parole et je ne prends même pas, comment dire, en compte la question de la manipulation de l'algorithme en plus du temps de parole, ça c'est le côté quantitatif, puis après il y a le côté qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce que l'algorithme met en avant, et ça on a vu, il y a des études assez récentes qui montrent qu'effectivement il y a une prime à la simplification, il y a une prime parfois à la radicalité. Et effectivement,
les algorithmes sont entraînés pour aller vers les contenus les plus émotifs, exactement. Et les plus polémiques.
Et donc non seulement on est totalement aveugle, et en plus les contenus qui sont mis en avant, on n'a absolument pas la main dessus.
Est-ce que les médias ont un rôle là-dedans, Blanche Léridon, dans la façon dont ils ont couvert ces municipales, peut-être un peu en deçà d'événements internationaux majeurs, et qui donc ont organisé aussi le repli sur les réseaux?
Bien sûr, moi j'observe, c'est vrai, une espèce de drôle de campagne, c'est-à-dire qu'elle tarde quand même à démarrer, elle est le fait des médias, mais pas que. Hein. Je trouve qu'il y a parmi les candidats eux-mêmes, on tarde à recevoir de véritables programmes. Nous, à l'Institut Montaigne, on fait comme à chaque élection une grosse opération de chiffrage des programmes, de bilan financier des exécutifs sortants, qui d'ailleurs paraîtra à partir de mercredi.
C'est vrai
que là, voilà, on a quand même beaucoup de difficultés à avoir des programmes conséquents. Et c'est vrai que l'actualité internationale a totalement pris le dessus, que ce soit l'Iran, tout ça est effectivement très très important, mais comme vous le disiez très bien, Raphaël Grabli, on est quand même dans le dernier test démocratique avant l'élection présidentielle de 2027. Donc comment est-ce qu'on redonne goût aux campagnes? Comment est-ce qu'on redonne foi à une politique dont on sait à quel point elle est abîmée? Les chiffres du baromètre de la défiance, de la confiance, pardon, du Cevipof montrent à quel point tout le personnel politique est fragilisé aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les études et l'impact des réseaux sociaux sur la fabrique de la pensée politique. Il y a une étude très intéressante de deux chercheurs du Cevipof basé sur les données fracture française, Luc Rouban et Flora Chambril, qui montrent que les réseaux sociaux vont en réalité pas tant forger votre conception politique, mais plutôt être un peu une chambre d'écho, venir vous confirmer dans vos biais. Donc, disons que ceux qui sont déjà convaincus vont l'être davantage encore, mais qu'il n'y aura pas d'inflexion majeure dans votre pensée politique et dans vos convictions par ce biais-là. Donc là encore, l'idée, c'est d'en relativiser la portée à l'échelle d'une élection, particulièrement comme les municipales. Ce sera sûrement différent pour les présidentielles, pour des raisons simples. C'est-à-dire que municipales, vous pouvez aller tracter, vous avez une proximité, notamment dans les petites villes, beaucoup plus forte, qui vous permet d'être sur des relais physiques importants. Là où, pour une campagne nationale, évidemment qu'il va falloir compter sur ces relais numériques-là.
Raphaël Grabli, vous vouliez réagir et je voudrais qu'on parle d'ingérence, quand même, avant de finir ce débat, parce que ça aussi, c'est la nouveauté de l'implication numérique dans ces réseaux, qu'on parle d'intelligence artificielle ou de communication politique sur les réseaux.
Totalement. Aujourd'hui, quand vous avez... Alors, forcément, on parle plutôt des candidats des grandes villes là, sur les municipales. Mais aujourd'hui, et on parlait de ce que montrent les algorithmes, on ne sait pas comment fonctionnent ces algorithmes. Et on a forcément toujours un soupçon d'ingérence, de mise en avant de certains contenus. Aujourd'hui, toutes les plateformes ont des dirigeants qui sont politisés. On parlait d'Elon Musk, mais aujourd'hui, vous regardez Mark Zuckerberg, il est devenu aussi politisé. Alors TikTok, c'est assez spécifique parce que c'est lié au Parti communiste chinois. Donc dans tous les cas, il y a quand même une situation qui permet d'avoir une certaine vigilance, on va dire. Et puis après, pour poursuivre ce qui était dit, c'est vrai que effectivement, la polarisation...
Notamment avec des fermes de trolls qui vont encourager la
exactement.
Polarisation, ça a été démontré par aussi...
Exactement, oui, pas forcément, justement, pas forcément à l'initiative des candidats eux-mêmes. Alors, il y a des techniques aussi par les candidats qui demandent aux militants de se mobiliser, d'avoir plusieurs comptes, etc. Mais il y a aussi une instrumentalisation, et notamment sur les indécis. Et ça, c'est important. Oui. Là, on a un vrai effet. Effectivement, il y a l'ancrage, il y a la radicalisation sur les ancrages de chacun. En revanche, les réseaux sociaux, c'est un vrai impact sur les indécis.
Vous êtes d'accord, Blanche Leridon, ou pas? Vous lui donnez ce point, même si...
Allez, sur les indices, oui, moi, je voudrais finir en disant quelque chose que vous avez commencé avec un sonore de Mamdani à New York. Ne pas oublier que Zoran Mamdani aussi avait des relais physiques très importants. Il y avait une cohorte de 100 000 New-Yorkais volontaires qui allaient faire du porte-à-porte. Donc oui, il y avait une stratégie numérique extrêmement fine, mais il y avait aussi des relais humains sur le terrain. Et finalement, c'est aussi ça qui est fondamental dans une élection.
Merci, Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, une responsable des questions démocratiques et institutionnelles, et Raphaël Grabli, grand reporter spécialiste des sujets numériques. On vous suit sur BFM TV. Bonne journée à tous les deux.
Merci.
Merci.
C'est ta bouche, c'est tes lèvres, c'est tes lèvres qui bougent, et c'est tes mots dedans. C'est tes yeux, derrière c'est toi qui vois le monde et tes oreilles qui l'entendent.
Répétez-le face à la glace ce matin, c'est toi la boss, 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 boss. C'est le choix musical de la grande matinale. Aujourd'hui, le tout nouveau titre de Marguerite, La Boss, on l'avait découverte avec les filles, les meufs. Et dans Nouvelle Tot, elle continue sa route et ça va très très bien pour elle. La patronne du studio, désormais, La Boss, c'est Charline Vanhoenacker, accompagnée de son ménestrel, Frédéric Fromet.
Eh oui, Mathilde. Samedi, des groupuscules fascistes ont défilé à Lyon avec l'aimable autorisation du gouvernement. Et dans Le Monde, on a lu qu'un des organisateurs avait déclaré « C'est nous les gentils ». Alors on va faire une gentille chanson.
Voici venu le temps des manifs, bon enfant. Dans les rues de Lyon, l'extrême droite c'est trop mignon. C'est le moment joyeux des fachos heureux, des nazis gentils, travail, famille, patrie. Lève ta main pour Pétain, si t'es nostalgique de la collaboration. Que c'est chic,
une croix celtique.
Affiche ton racisme en toute
décontraction.
Voici venu le temps des gentils méchants. Si t'es pas dans notre camp, tu vas t'en prendre plein les dents. On se sent beaucoup mieux comme en 42. Solidarité à tous les crânes rasés. Si t'as le blues,
allume CNews.
On fait notre promo dans toutes
les émissions.
Mets tes Rangers
et ton Bombers.
Tu seras à la mode quelle que
soit la saison.
Voici venu le temps pour les musulmans de foutre le camp avec votre ramadan. On veut plus de vous ici, rentrez au pays et dans le ferry embarquez LFI. Tatoué
d'une croix gammée,
dans la rue je me trouve
super stylé,
normalisé
depuis des années,
enfin libéré, merci
terrain Bolloré.
Voici venu le temps des jolis slogans, des on est chez nous, Jordan est beaucoup trop mou. C'est le pays des blancs, des français de souche. Adieu les migrants, les métèques, les manouches. Dans les rues,
on ne se cache plus.
On dit même salut avec
le bras bien tendu.
Nous on rigole,
on fait la farandole.
On fait des bisous avec
nos battes de baseball.
Voici bientôt le temps, la victoire en chantant. Avec tous les amis, les Devilliers, les Ciotti. C'est le pays béni des cadeaux tradis, des réacs gentils, oui c'est un paradis. Cagoulé
ou bien masqué,
si fier d'assumer nos thèses
de dégénérer.
Mussolini
ou bien Vichy,
toutes ces références qui rendent
la vie plus gaulerie.
Voici venu le temps des Rangers à gland, même si Bardella c'est que du gloubi-boulga. Dans ce pays on peut vraiment faire ce qu'on veut, des slogans haineux, Laurent Nunez ferme les yeux. Voici venu le temps où on se balade légalement. Merci l'Elysée pour le barrage tout claqué.
Merci Charline Vanhoenacker, Fred Fromet, Casimir et les gentils nazis ce matin dans le studio. Et une bonne journée à vous. Toute cette semaine, on réécoute une sélection de nouvelles têtes de Daphné Burki. Ce matin, c'est une comédienne qui kiffe d'aller à la cantine avec Guillaume Gallienne.
Il est 9h50 et nous sommes dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ce matin, faites entrer donc la nouvelle pensionnaire de la Comédie Française, Mélissa Polony, bienvenue sur France Inter.
Merci beaucoup.
Je suis tellement heureuse que vous soyez là. À seulement 26 ans, vous venez de décrocher la particule la plus chic, Mélissa Polony de la Comédie Française. Comment vous l'avez appelée ?
Alors, que je suis passée auxiliaire ou pensionnaire ?
Pensionnaire.
Alors pensionnaire, j'étais en train de faire la sieste.
Merci,
et je reçois un appel qui me réveille de ma sieste d'un numéro que je ne connais pas, donc je réponds. Et c'est Clément Hervieux-Léger qui me dit, écoute Mélissa, voilà, je voudrais changer la nature de ton contrat, je voudrais que tu passes pensionnaire. Et donc là, il m'a dit, est-ce que tu es d'accord ? Oui, du coup.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais.
Bah, parce que c'est un rêve depuis toujours.
Oui.
En fait. Vous aviez le livre vraiment de la Comédie Française
oui, vraiment,
sur votre table de nuit.
J'ai eu à Noël, quand j'étais petite, je ne sais plus à quel âge, vraiment le livre de l'histoire de la Comédie Française.
Alors, je vais expliquer aux auditeurs comment on entre à la Comédie Française, parce que c'est un peu mystérieux cette histoire. Ce n'est pas un recrutement, c'est une adoption. D'abord, il y a donc ce premier statut, artiste auxiliaire de la troupe, c'est-à-dire qu'on vous engage sur une production, un spectacle ou un rôle. Dans votre cas, votre votre entrée comme auxiliaire, c'était avant-hier, le 22 septembre 2025. Vous avez fait vos débuts dans Casse-Noisette ou Les Royaumes de la Nuit, mise en scène par Johanna Boyer, et vous étiez donc Clara. Et si la maison vous voit donc, si elle vous aime, si elle vous éprouve sur le plateau, en effet, parfois, et c'est rarissime, vous avez le coup de fil, vous devenez pensionnaire, vous entrez officiellement dans la troupe, vous signez un contrat et vous jouez plusieurs spectacles dans la maison, vous appartenez à la maison. Et au sommet, il y a les sociétaires, mais dans ce cas-là, vous êtes élu par la troupe et la c'est le Graal. Bref,
c'est ça.
Vous venez d'entrer dans une famille, il y a toujours des surprises dans une famille. Qu'est-ce qui vous a surpris là, tout de suite, en démarrant ?
Bah, franchement, la convivialité. Enfin, vraiment, pour moi, c'était vraiment une institution. J'y allais, enfin, j'avais un peu peur et tout.
J'imagine.
Mais en fait, enfin, tu croises Guillaume Gallienne à la cantine. Enfin, en fait, c'est une entreprise du théâtre, quoi.
Il y a quoi, la cantine de la Comédie Française ?
Écoute, il y a des frites, des fois. Il y a du fromage.
Ouais, voilà, tout simplement. Mais c'est mystérieux. Moi, je rêve de rentrer là-dedans. Mais on va raconter un peu. Mélissa, vous êtes une fille du Sud. Vous êtes née à Cagnes-sur-Mer. Vous avez grandi à Nice et ses alentours. Dès que je prononce Nice, je suis obligée, c'est comme ça, de passer ce son.
Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions
qui s'en vont.
J'adore.
Jusqu'au bout.
Je n'ai pas de pas de la circulation.
Voilà, ça y est, c'est passé. C'est un toc que j'ai dans ma vie. Je suis obligée de passer Alec Mention et de passer de la Comédie Française à Alec Mention. C'est très important. En réalité, la chanson de votre enfance, et là, je ne l'avais pas entendue depuis longtemps, c'est ça.
Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies.
Ouais, oui. C'est Colonel Reyes.
Oui.
Vous êtes donc une petite fille à Nice. Votre rêve à la base, c'était d'être vétérinaire ou éventuellement dentiste. À quel moment vous avez bifurqué ? Qu'est-ce qui s'est passé, Mélissa ?
Bah, quand je passais à mon bac S. Enfin,
ah, tardivement,
ouais,
finalement.
Bah oui, en fait, moi je suis allée en filière S en me disant, bon bah je vais être médecin. Enfin, quoi que je veuille faire, c'est dans la médecine, vétérinaire, dentiste et tout. Mais c'était tellement compliqué. Enfin, vraiment, j'étais larguée en cours, quoi. Les maths,
Mais il y a un prof qui a décelé quelque chose chez vous ?
Ouais, quand j'étais en CE2, il y a ma maîtresse, Madame Galéa, que d'ailleurs je n'ai jamais réussi à recontacter. Donc si Madame Galéa m'écoute, qui m'avait dit, Mélissa, faut que tu fasses du théâtre et tout. J'avais dit, non, pas du tout. Et elle m'avait dit, si, tu vas faire du théâtre.
Elle a vu ça en vous, ouais. C'est sûr.
Je pense que j'étais un petit peu un bout en train.
Dans vos références, il y a Madame Galéa, il y a la comédienne Estelle Meyer, qu'on salue aussi,
que
super comédienne, et la légende Lorraine Hill. Lorraine Hill, c'est pas seulement une grande voix, c'est une artiste qui a réussi quand même l'exploit de faire cohabiter soul, hip-hop, poésie, engagement, spiritualité, ça c'est quand même fou, et une influence énorme, encore aujourd'hui, tu vois, sur les générations suivantes. En revanche, elle arrive toujours très en retard à ses concerts.
Ah bon ?
Quelquefois, elle a jusqu'à 2 heures de retard, mais ça fait partie de la légende de Lorraine Hill.
On lui pardonne.
On lui pardonne, sauf que vous entrez dans une maison où la ponctualité est une religion.
Oui. Je peux pas trop parler.
Mais vous, votre plus grande peur, c'est pas d'être en retard, c'est d'oublier votre texte, quand même.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ? C'est des cauchemars, carrément ?
Ah, mais à chaque fois, avant de jouer, y a toujours 2-3 jours avant la première, il y a les cauchemars. Mais même plus de perdre mon texte, de pas savoir ce que je dois faire du tout.
Cauchemar effrayant.
Ah, ouais.
Surtout que vous allez jouer Freya dans Bestiole,
aussi,
de la clane Philpott, mise en scène par Sephora Pondy, au Studio Théâtre à partir du 22 janvier. Et vous allez aussi chanter dans La Ballade de Souchon, mise en scène par François Giard, au Théâtre Montparnasse, et à partir du 19 mars. Donc vous n'avez pas intérêt à oublier votre texte. Voilà, c'est dit comme ça, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, parce que je suis comme ça, je vous ai donné une petite carte blanche et vous me faites un beau cadeau. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ?
Je voudrais chanter Gracias a la vida de Mercedes Sosa.
Et vous êtes très très bien accompagnée aujourd'hui par qui ?
Antoine Caillou, qui est mon collègue de promo avec qui j'étais en classe libre au cours Florent.
Ben oui, parce que ça fait partie de votre grand CV.
Oui.
Vous faisiez partie de la fameuse classe libre du cours Florent, qui est un peu l'excellence de cette école. Alors, le studio de France Inter est tout à vous.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto
alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Mélissa Polony, de la Comédie Française.
Oui.
Merci voilà, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et merci Daphné Burki, merci Mélissa Polony et gracias a la vida, bien sûr. En ce début de semaine, j'ai envie moi aussi de remercier toute l'équipe de la Grande Matinale. À la réalisation, c'est Maria Pasquet et Christophe Imbert. La programmation et la documentation, Charlotte Matou, Amélie Stadelman, Perrine Malinge, Mathilde Clatt, Joaquin Taïeb, Capucine Aubert, Jean Brossier, Juliette Drone, Alexandra Brouillet. Et un grand merci à notre stagiaire, Cléa Journeau, merci aussi à tous les standardistes d'Inter. J'accueille dans le studio ce cher Ali Ribéi.
Bonjour Mathilde Serret. Mais quel accent espagnol formidable.
Mais vous savez que je parle très bien espagnol, mais on verra ça plus tard. C'est la grande matinale qui se termine, mais c'est grand bien vous fasse qui arrive, bien
et
sûr.
Oui.
C'est quoi votre sujet aujourd'hui?
Alors, a-t-on vraiment besoin de compléments alimentaires, qu'il s'agisse de fatigue, de stress, de stimulation du système immunitaire, de déprime, de ménopause? Dites-nous si vous prenez des compléments alimentaires au 01 45 24 7000.